Chers auditeurs, nous avons parlé la dernière fois du territoire du diocèse de Bayonne, de son étendue et de ses limites. Et quelle était donc en ce XIIe siècle l'organisation, la vie de ce diocèse? Nous avons évoqué les évêques qui l'ont dirigé. L'évêque était bien entendu le personnage important, mais il n'était pas le seul, bien évidemment. Il avait autour de lui des collaborateurs, en particulier les chanoines du chapitre. C'étaient des personnages importants que les chanoines du chapitre à cette époque-là. Ce sont ces chanoines qui ont élu l'évêque, et celui-ci a reçu ensuite l'ordination épiscopale des mains de l'archevêque d'Auch, dont dépendait Bayonne. Le chapitre constitue comme le sénat de l'évêque, et celui-ci a recours aux chanoines pour les décisions à prendre dans l'administration du diocèse. D'ailleurs, il peut les consulter facilement, car tout laisse à penser que ces chanoines, vivaient en communauté avec l'évêque, comme le faisaient à cette époque de nombreux chapitres avec les encouragements des conciles. Cette cohabitation ne sera pas toujours facile, et elle ne durera pas au-delà de la fin du XIIe siècle, au temps de Bernard de Lacquart. Il est vrai que cet évêque, rappelez-vous qu'il était amiral de la flotte de Richard Cœur de Lion, Bernard de Lacquart n'avait pas un tempérament très accommodant. Et dans le différend qu'il eut avec ses chanoines en 1188, l'évêque de Dax dut intervenir pour dirimer le conflit. L'objet de ces discordes, c'était tout d'abord des questions matérielles, d'utilisation de dons faits par les chrétiens et une question de préparation de repas. Comment faire les partages après la rupture de la vie commune. Précisons tout de suite que les chanoines, après avoir mis fin à la vie commune avec l'évêque, vont continuer entre eux cette vie communautaire. Les conflits portaient également sur des questions d'administration, en particulier sur la nomination des curés de paroisse et sur les revenus qu'il fallait attribuer à certains d'entre eux. Et là, bien sûr, c'était beaucoup plus sérieux. Et l'archevêque d'Auch dut intervenir à la demande de Rome, car pour dirimer le conflit, on s'était adressé à Rome. C'est ainsi que le chapitre obtint ou garda la faculté de présenter des titulaires aux églises d'Ossès, de Saint-Jean-de-Luz et de Saint-Léon d'Anclète. L'évêque, lui, nommerait aux églises de Biarritz, d'Arbonne, de Bassussari et de Pagassu, une paroisse sans doute entre Asquin et Saint-Jean-de-Luz qui a disparu. Les mesures prises alors vont être insérées d'ailleurs dans la fameuse bulle de Célestin III en 1194 qui fixait les limites du diocèse. Et les mesures prises alors seront respectées jusqu'au concordat de 1801. Voilà pour les chanoines. Il y avait également un autre personnage important auprès de l'évêque, son bras droit pour ainsi dire. Ce n'était pas encore le vicaire général. C'était l'archidiacre. Et tout ce qui concernait la répartition du personnel, la discipline et les questions matérielles étaient du ressort de l'archidiacre. Au début, il est unique pour tout le diocèse. Mais à mesure que son rôle grandit et surtout à mesure que le nombre et l'importance des paroisses s'accroît, la juridiction de l'archidiacre se restreint géographiquement et le nombre d'archidiacres augmente. On trouve ainsi des archidiacres qui n'ont à s'occuper que d'une région précise. Il y a un archidiacre du Bastan, résident à Maya, d'ailleurs l'un d'eux deviendra évêque de Bayonne, il y en a un autre à Saint-Jean-de-Pied-de-Port, pour le pays de Cise. Et sans doute, il y en a eu également d'autres, par exemple pour l'Arbérou ou pour Ossès. Le rôle de l'archidiacre, eh bien, c'est de s'occuper de l'administration du diocèse. Celui qui s'occupe de la vie cultuelle, c'est l'archiprêtre. C'est lui qui est chargé de veiller à ce que les prêtres disent la messe pour les fidèles, qu'ils prêchent, qu'ils administrent les sacrements. Et il a à sa charge ainsi un groupe de paroisses. Au fond, il correspond au doyen actuel. Le diocèse est réparti en paroisses. Il est sûr que certaines d'entre elles existaient quand le diocèse a été érigé en 1125. Par exemple, il me semble beaucoup qu'il existait déjà les paroisses du Rugne et du Stalitz. D'autres se sont créées à mesure que la population va s'agrandir. La paroisse, elle n'a pas à ce moment-là les limites bien fixes qu'elle a aujourd'hui. La paroisse, c'est tout d'abord une église. Et le personnage principal de cette église, paroisse si l'on veut, c'est le prêtre qui en a la responsabilité. On l'appelle le plus souvent le chapelain ou le prêtre paroissial. Le terme de curé ne viendra que beaucoup plus tard. On peut dire que la paroisse, à son origine, est constituée par une église dédiée, et ceci est très important, à un saint. Elle est constituée par une église et par le groupe de fidèles qui s'y réunit habituellement autour d'un prêtre chargé des cérémonies du culte. Comme je l'ai dit, peu à peu, les limites de ces paroisses vont se préciser et deviendront peu à peu plus tard des communes. Certaines de ces paroisses sont d'origine hiérarchique, c'est-à-dire que c'est l'évêque qui les a constituées. On peut le dire, par exemple, pour les paroisses de Villefranche et de Bassussari, qui furent ainsi peuplées par la politique de l'évêque de Bayonne, menée de concert avec le vicomte du Labour. Mais le plus souvent, ce sont des laïcs qui prennent l'initiative de construire ces églises paroissiales, de leur attribuer les revenus qui leur permettront de vivre et de faire vivre le prêtre qui leur sera attaché. Certes, en ce XIIe siècle, on ne distribuait plus les charges ecclésiales à prix d'argent, et ceux qui s'étaient accaparés indûment des revenus d'église, les dîmes en particulier, devaient les restituer et le faisaient, je crois, à ce moment-là. Mais il y avait des droits acquis, ceux des fondateurs, par exemple, qu'il fallait respecter. De toute manière, le fait que le régime de féodalité n'existait pas au Labour a dû atténuer le caractère criard de certains abus qui existaient en France en particulier. Il n'y avait pas entre le prêtre responsable d'une église et le patron de celle-ci le lien de vassalité que l'on rencontrait ailleurs et qui rendait certaines situations insupportables. Le curé d'une paroisse était déjà un personnage à cette époque. Quel était le mode de recrutement et de formation de ces prêtres paroissiaux ou chapelains? Nous l'ignorons. Il est probable qu'après avoir acquis quelques rudiments de latin et de droit liturgique, le plus souvent auprès de notre prêtre, le candidat, nanti d'un bénéfice, c'est-à-dire d'une paroisse et de ses revenus, ce bénéfice reçu de celui qui en avait la disposition, c'est-à-dire de l'évêque, du chapitre ou du laïc, eh bien ce prêtre se présentait à l'évêque et celui-ci lui faisait passer un examen rapide, lui conférait l'investiture canonique, c'est-à-dire la mission sacerdotale dans cette paroisse, lui conférait l'investiture canonique, comme on dit, pour l'office, et lui conférait l'ordination sacerdotale s'il n'était pas prêtre. Voilà quelle était l'organisation du diocèse en ce XIIe siècle. Et nous verrons la prochaine fois quelle était la vie chrétienne de ces paroisses du diocèse de Bayonne.